France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
C'est l'une des grandes tendances du XXIe siècle. Pour faire face aux menaces qui pèsent sur les forêts, les États rivalisent de promesses pour planter des arbres. Réunis à la COP de Glasgow en 2021, 150 gouvernements se sont engagés à reboiser une surface équivalente à la taille de l'Inde.
Let's work together, not just to protect the forests, but also to ensure that the forests return. Thank you very much.
Thank you so much.
Planter des arbres pour sauver la planète. Tels sont les engagements pris par des chefs d'État ces dernières années, avec le lancement de chantiers souvent titanesques dans le monde. En effet, jamais autant d'arbres n'ont été plantés à la surface de la Terre. Depuis l'accord de Paris sur le climat en 2015, c'est le mot d'ordre pour lutter contre la déforestation, l'érosion de la biodiversité et les émissions de CO2. Or, en 2021, un rapport de l'IPBES, plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, explique que, mal utilisés, la reforestation et l'afforestation peuvent détruire les écosystèmes, la biodiversité qui y vit, réduire le stockage du carbone et créer des inégalités d'accès à la nourriture. Alors, reforester sans tenir compte des espèces, des écosystèmes, du sol, peut donc se révéler inutile, voire contre-productif et même destructeur. Planter des milliards d'arbres pour sauver la planète, bonne action ou arnaque? Analyse de ce paradoxe et réponse à cette question. Présentation de solutions aussi avec nos trois invités. François-Xavier Drouet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, auteur-réalisateur du documentaire « Planter à tout prix, des arbres pour sauver la planète », un film diffusé sur Arte. Sylvain Angerand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur forestier, coordinateur des campagnes pour l'association Canopée. Vous nous en direz plus, bien sûr, sur l'association et ses actions. Et en duplex, depuis les studios de Ici Héros à Montpellier, Alain Carsanti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chercheur au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Eh bien, merci à tous les trois d'être avec nous. Bienvenue à tous, à nos auditeurs également, dans le magazine de l'environnement de France Culture. Émission et magazine toujours en partenariat avec le journal Le Monde, préparé par Célestine Babinet, avec la collaboration de Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Pierre Pinot-Delina et celle d'Eva Canneparo. L'émission est réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique depuis Paris, Jérémy Kaufmann.
Malgré des critiques des scientifiques, la campagne 1000 milliards d'arbres a reçu le soutien de nombreux chefs d'État, dont certains peu réputés pour leur engagement climatique.
Today I'm pleased to announce the United States will join 1 trillion trees initiative being launched here at the World Economic Forum. 1 trillion trees.
Dans la foulée de cette annonce, une loi à 1000 milliards d'arbres est proposée au Congrès des États-Unis par le républicain Bruce Westerman.
1000 milliards, c'est un très grand nombre, même à l'échelle de la planète. La bonne nouvelle, c'est que nous avons commencé à agir. C'est pourquoi j'ai proposé la loi 1000 milliards d'arbres dans le cadre d'une campagne pour proposer des solutions pratiques à ce problème complexe. Réfléchissez. Si toutes les émissions de CO2 d'origine humaine s'arrêtaient miraculeusement, que ferions-nous de tout le CO2 déjà dans l'atmosphère? La réponse, ce sont les arbres.
Extrait de votre film, François-Xavier Drouet. Donc, je rappelle le titre, Planter à tout prix des arbres pour sauver la planète. Point d'interrogation. Là, on entendait Donald Trump et donc ses annonces. C'est vrai qu'à la COP26, des engagements ont été pris de planter des arbres. Et puis, 1000 milliards à horizon 2030. Finalement, ce qui se passe en coulisses s'avère peu cohérent et pourrait même être destructeur. Nous allons en parler. François-Xavier Drouet, vous aviez déjà réalisé en 2018 un autre film intitulé « Le temps des forêts », tourné en partie sur le plateau des Mille Vaches, près de chez vous, dans la Creuse. Est-ce que là, vous êtes justement dans ce qui s'avère être peut-être la continuité, la suite logique?
Alors, quand j'ai fait ce travail, Le Temps des Forêts, donc, qui était sorti en salle il y a quelques années, moi, j'avais plein de clichés sur la forêt, et notamment cette idée que planter un arbre, c'est quelque chose de bien. C'est vraiment le geste écologique par excellence, une espèce d'image d'épinal comme ça. Puis, au contact des forestiers, on s'aperçoit que, souvent, pour eux, planter des arbres, c'est un constat d'échec. Il y a une petite phrase, un peu marrante qui circule. Ils disent, en général, quand on plante, c'est qu'on s'est planté. Parce que normalement, un écosystème forestier, il se débrouille tout seul, il n'a pas besoin qu'on plante d'arbres. Et moi, les problématiques que j'ai soulevées dans Le Temps des Forêts, qui était la question de l'industrialisation de la gestion forestière, elles se posent aussi à l'échelle internationale, et c'est ce fil que j'ai voulu suivre à travers ce film Planter à tout prix.
Sylvain Angerand, on parle de reforestation, mais aussi de malforestation. C'est ce que vous constatez, vous, cette façon donc d'adapter la forêt plutôt à l'industrie, la négation du vivant?
Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'essentiel des plantations qui sont réalisées sont bien souvent des plantations peu diversifiées, trop souvent avec des arbres à croissance rapide, comme l'eucalyptus en Amérique du Sud, qui est un arbre à croissance rapide, qui a pour particularité d'épuiser les sols, de pomper énormément d'eau. Et puis également en France, on va en parler dans la suite de l'émission, mais effectivement, les principales essences plantées aujourd'hui en France, ce sont des résineux, et des résineux qui posent pas mal de problèmes écologiques.
Et ailleurs dans le monde, les eucalyptus?
Eucalyptus en Amérique du Sud, mais on a un peu la même chose. En Indonésie, si on va voir, on va avoir de l'acacia mangéum. En Afrique, on va avoir aussi un mélange des deux. Voilà, on a vraiment une confusion qui s'est installée dans le débat public sur l'idée que un arbre coupé, un arbre planté, ce qui n'a absolument rien à voir, comme vient de dire François-Xavier, un bon forestier, il va faire tout sont possibles pour ne jamais avoir planté d'arbres. Parfois, c'est pas possible. Et on en parlera, il y a des solutions à ce moment-là. Mais en fait, considérer qu'une forêt naturelle est équivalent à une plantation, et ça, on trouve les racines, je pense qu'Alain reviendra dedans, dans la définition même de la forêt, qui est pas claire au niveau de la FAO, qui entretient cette confusion. Non, une forêt naturelle n'est pas l'équivalent d'une plantation.
Alain Carcenti, peut-être qu'on peut rappeler avec vous, dans ce début d'émission, ce que nous devons aux forêts, ce qu'elles représentent aussi comme richesse en matière de biodiversité.
Alors, en matière de biodiversité, ce sont les écosystèmes terrestres qui abritent le plus de biodiversité. Il y a le marin par ailleurs qui en a plus, mais disons du point de vue terrestre, ce sont les forêts, et particulièrement les forêts tropicales, qui abritent le plus. Du point de vue changement climatique, c'est important parce que là, il y a deux choses. Il y a le stock. D'abord, effectivement, ça stocke des dizaines, de centaines de milliards de tonnes de carbone. Et puis, surtout, ça a un rôle de puits de carbone, c'est-à-dire d'absorbeur, c'est-à-dire que lorsqu'on vous émettez une unité de CO2, de gaz carbonique dans l'atmosphère par une activité humaine, il y en a, disons, à peu près un quart qui va être pris par la végétation en général. C'est pas seulement les forêts, il y a également les sols, les zones humides, mais c'est tout cet ensemble d'écosystèmes qui fait que si on n'avait pas ces écosystèmes, on serait très très ennuyé pour le changement climatique. Et la difficulté, c'est que à la fois les océans qui absorbent à peu près la même proportion, à peu près un quart, et après, il y a la moitié qui reste stockée dans l'atmosphère. Mais le problème que nous avons, c'est que effectivement, au niveau mondial, et y compris en France, il y a un inventaire de l'IGN qui vient de sortir tout récemment et qui montre que de plus en plus, ce rôle de puits de carbone, c'est-à-dire d'absorbeur, est en train de s'affaisser. Plusieurs forêts tropicales sont maintenant des émetteurs nets de CO2 du fait des incendies, de la chaleur, la dégradation, des maladies, la mortalité. Et ceci est effectivement un problème très important, d'où la tentative de réponse avec des plantations. Sauf qu'on verra que ces plantations ne sont pas aussi efficaces qu'elles le prétendent et qu'elles ont parfois des effets contre-productifs. Même si je pense, et je le dirai tout à l'heure certainement, qu'on a besoin de toute façon de plantations, parce qu'on a tout simplement besoin de produire du bois comme substitut à des matériaux fossiles, du plastique par exemple, pour faire du carton, ou tout simplement pour du bois d'œuvre, pour la charpente, pour du bois industrie, etc. etc. Donc on a, qu'il faut bien regarder l'ensemble de l'image, et dans cette image, on va avoir besoin de forêts diversifiées. On va avoir aussi besoin de ce qu'on peut appeler des usines à bois, pour effectivement, ne serait-ce que pour d'ailleurs limiter la pression sur les forêts naturelles qui restent. Et ça, c'est une problématique qu'on a pas mal dans certains pays, notamment tropicaux.
Sylvain Angerand, je crois que vous avez mentionné, je ne sais plus si c'est sur le site de Canopée, 87% des arbres plantés l'ont été après des coupes rases, c'est ça?
Ah, là, on parle de la situation en France, du plan de plantation d'un milliard d'arbres lancé par le président de la République. Et effectivement, au-delà du slogan, nous, on a été enquêtés sur le terrain. Donc, ça a été très difficile parce que déjà, il y a un problème de transparence, y compris en France. Qu'est-ce qu'on plante? Ça a été très compliqué de le savoir. Et quand on a réussi à trouver l'information, on s'est rendu compte que l'essentiel de ce qui était planté était lié à des coupes rases. Alors, les coupes rases, c'est comme les chasseurs, il y a le bon et la mauvaise coupe rase. C'est qu'il y a des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on a vraiment des problèmes sanitaires. Typiquement, sur l'épicéa, qui est un arbre de montagne qu'on a planté en plaine et qui est en train de mourir.
À cause du scolyte.
À cause du scolyte, voilà. Enfin,
notamment.
On pourrait en faire une émission entière.
Oui.
Là, ça peut se justifier. Voilà, tiens, de coupe rase. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de coupe rase qui, à notre sens, ne se justifient pas. C'est-à-dire qu'on va raser des forêts bien portantes. Juste, on les qualifie de pauvres. Donc, pauvres, pourquoi? Parce qu'économiquement, le bois qui est à l'intérieur n'est pas adapté aux besoins de l'industrie. Donc, on les rase et on met à la place des résineux, beaucoup plus adaptés aux besoins de l'industrie. Et ça, c'est le problème, effectivement, qu'on a en France.
Et ailleurs, on le trouve aussi.
Alors, là, vous me parlez du plan d'un milliard d'arbres.
Oui.
Des quatre plans où on rase des forêts, effectivement. On ne va pas l'avoir directement comme ça. Moi, je pense tout de suite au Brésil, qui effectivement essaye de maquiller des fois un petit peu dans un discours sur cette notion de déforestation brute, déforestation nette. D'ailleurs, ces mots-là, c'est de dire, on va regarder ce qui part en Amazonie, ce qu'on rase, et puis en fait, on va déduire ce qu'on replante dans le sud du pays avec des monocultures d'eucalyptus. Et en fait, la différence entre les deux, c'est la déforestation nette. Donc, c'est un moyen d'amoindrir en fait la déforestation, la destruction des forêts naturelles. Et ce type de mécanique, encore une fois, elle vient un petit peu polluer le débat sur les forêts parce qu'on mélange des choux et des carottes et elle permet pas de voir vraiment effectivement comment se portent nos forêts naturelles, qu'il puisse y avoir besoin à certains endroits d'une gestion forestière plus intensive, on peut en discuter, mais mélanger les deux, ça ne permet pas un débat serein.
Alors François-Xavier Drouet, vous avez tiré le fil, vous avez essayé de comprendre, on n'a jamais planté autant d'arbres. Qu'est-ce qui se cache derrière ces pratiques d'une manière générale? Parlons-en avec, pourquoi pas, de certains exemples à travers le monde, avant justement de se préoccuper de la France.
Ça ne vous a pas échappé qu'on est face à une crise écologique absolument terrible. On a parlé du changement climatique, mais il y a aussi l'érosion de la biodiversité et bien d'autres choses. Et planter des arbres depuis, on va dire, l'accord de Paris s'est présenté tout azimut comme la bonne idée, la solution à tous nos problèmes. Et donc, à la fois, on a vu énormément d'initiatives internationales proposées comme ça, de boiser des surfaces absolument délirantes. Un coup, c'est le Bone Challenge, on vous dit qu'on va vous reboiser l'équivalent de la surface du Linde. On a parlé de cette idée du plan 1000 milliards d'arbres, où là, c'est carrément la surface des États-Unis qu'on va reboiser, comme si on avait les surfaces disponibles pour ça. Et puis, parallèlement, il y a aussi une extension, donc comme on l'a dit tout à l'heure, des monocultures d'arbres, parce que il y a des besoins en croissance exponentielle, pour notamment les matériaux d'emballage, le papier toilette, enfin tous ces usages comme ça de la mondialisation. Et on voit dans les zones tropicales une extension de ces monocultures. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est souvent une extension qui se fait sur des zones de biodiversité critique. Alors jusqu'à assez récemment, en fait, c'était très difficile de savoir quelles étaient les surfaces concernées, parce qu'au niveau international, il n'y avait pas vraiment de statistiques fiables, les pays ne publiaient pas les surfaces, ou c'était pas les mêmes définitions. Et là, depuis quelques années, il y a des études scientifiques qui sortent, qui sont notamment basées sur l'imagerie satellite. Et on voit très précisément, justement, que pareil, je prends l'exemple du Brésil, l'extension des monocultures d'eucalyptus se fait sur des zones de savane.
Et comme le Cerrado, par exemple.
Comme le Cerrado, se fait sur des zones humides. Il y a peut-être 10% de cette expansion qui se fait même sur des parcs nationaux dans certains endroits, comme en Afrique. Donc, il y a vraiment un coût écologique énorme à cette expansion.
Sylvain Angérand, vous voulez réagir et ensuite on ira chercher bien sûr l'expertise d'Alain Kersanti.
Oui, François-Xavier date cette mode à l'accord de Paris. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est plus profond que ça en fait. Cette idée de planter des arbres, à mon sens, pour m'y intéresser depuis une vingtaine d'années, elle relève de mécanismes psychologiques profonds en nous. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que plus il y a la crise écologique qui est flagrante, plus en fait on a envie d'agir. Et c'est l'illusion que planter un arbre permet d'agir. Je vous donne juste un exemple, mais tellement signifiant. Quand il y a eu les grands incendies en Amazonie, Les leaders, ce sont présidents de la République, alors même lors des incendies en France, dans les Landes, hein, chaque fois on a les présidents de la République qui vont sur place et qui disent « vous inquiétez pas, on va replanter ». Mais ça n'a juste rien à voir, en fait. On ne peut pas, en replantant des arbres, recréer l'Amazonie. Et cette sensation-là, on voit que plus la crise écologique s'exacerbe, plus elle devient complexe et imbriquée, plus on a recours à ce type d'artifice pour, en fait, éviter de se poser, de s'attaquer aux questions complexes, qui sont celles du foncier, qui sont celles de la biodiversité. On en parlera derrière.
Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi que quand on replante, il faut bien au moins 10 ans à un arbre pour devenir un réel capteur de CO2.
Ça dépend de l'arbre. L'eucalyptus, vous
oui,
pouvez
bien sûr.
Récolter à 7 ans.
Oui, bien sûr.
Si
oui.
Vous me parlez
mais en tout cas, plusieurs années.
150 ans.
Oui. Et si ce n'est qu'on a tendance à les couper au moment où ils deviennent profitables pour le CO2.
Alors. On pourra refaire toute une émission sur,
sur le type d'espèce.
Voilà. Et les sols importants. En fait, là, sous nos latitudes en milieu tempéré, la moitié du carbone est dans les sols.
Oui.
D'accord. Donc, en fait, c'est des paramètres à prendre dans l'équation également. Voilà. On ne peut pas simplifier. En tout cas, l'écosystème forestier est un écosystème complexe par nature. Vous rajoutez là-dessus les interactions avec les humains. En fait, on ne peut pas simplifier ça à une histoire de nombre d'arbres.
Mais sans simplifier, un arbre qui a disparu ne peut pas être du jour au lendemain remplacé avec la même efficacité par un nouvel arbre. On est d'accord. En matière de captation de CO2.
En matière de service écosystémique.
Exactement. Exactement. Alain Carcenti, on sent qu'on est dans des opérations aussi de communication. Le système de compensation carbone ajoute aussi une autre donnée, hein, puisque c'est une façon de donner bonne conscience, probablement, et de permettre à des entreprises de continuer à générer du CO2. Peut-être que vous pouvez nous parler aussi de cet aspect. Et là, qui rentre dans ces politiques de 1 milliard d'arbres ou de 1 000 milliards d'arbres.
Juste avant de venir à ce sujet, je voudrais quand même apporter un ou deux points. Sylvain Angeran a parlé de... je n'ai pas très bien effectivement compris cette phrase, mais je voudrais pas que les auditeurs croient qu'en France, par exemple, on a des coupes rases et on plante sur 85% effectivement des formules spécifiques. L'IGN vient de sortir il y a quelques jours son dernier inventaire qui montre que 86% des forêts françaises sont des forêts naturellement régénérées. Naturellement régénéré, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'intervention sylvicole et de gestion dedans. Ça veut dire qu'effectivement l'essentiel quand même du renouvellement des forêts, c'est fait par la croissance naturelle, qu'elle peut être assistée, puis y avoir des plantations d'enrichissement ou autre. Et il y a une distinction assez importante à faire qui est faite par la FAO, mais qui est faite aujourd'hui par toutes les organisations au niveau mondial entre ce qu'on appelle les forêts de plantation, qui sont en général des forêts monospécifiques à gestion intensive. Pour la production de bois, par exemple, c'est typiquement les forêts d'eucalyptus, d'acacia, de pin, etc., ou les forêts de teck, et les forêts plantées sont des forêts effectivement qui sont plus composites, c'est-à-dire dans lesquelles il y a une intervention humaine, mais on joue sur la régénération naturelle, et disons que on n'est pas dans des logiques de coupe rase avec plantation intensive. Au niveau mondial, c'est les forêts de plantation, c'est 131 millions d'hectares, nous dit la FAO, c'est-à-dire c'est 3% la surface forestière mondiale. Bon, c'est pas immense, c'est beaucoup plus en volume, hein, parce que ça produit beaucoup plus de bois, bien sûr, qu'une forêt naturelle. Et les forêts plantées, c'est 290 millions d'hectares, c'est 7% de la couverture mondiale.
D'accord.
Donc vous voyez, il faut déjà nuancer un petit peu ce propos sur le fait que on n'est pas envahi non plus par des forêts de plantation. Ça produit plus, mais ça prend effectivement moins d'espace. Bon. Alors, ensuite...
On n'est pas envahi, mais est-ce qu'on pourrait l'être?
Non, je pense qu'on le sera pas. Pour différentes raisons, justement. Premièrement, il y a des compétitions sur l'usage des terres. Et c'est ce qu'on reproche aux forêts de plantation, mais on pourrait tout aussi bien le reprocher pour la conservation. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple en Afrique où la population augmente très vite et l'agriculture est très extensive, vous avez effectivement une compétition potentielle pour des usages agricoles ou des usages d'élevage, dans le Sahel notamment par exemple, et des usages forestiers. Et de ce point de vue, les plantations, ça prend moins de place que quand vous faites une aire protégée de 2 millions d'hectares. Donc, de ce point de vue, les tensions ne sont pas les mêmes. Alors, par contre, évidemment, en termes de biodiversité, ça n'a rien à voir.
Oui.
Et en termes même de protection de sol, etc., etc. Bon. Les forêts de plantation, elles rendent des services écosystémiques. Souvent, on a moins de biodiversité. Et encore, c'est pas toujours le cas. Parce que une forêt qui a des ouvertures, qui est gérée, ça va effectivement être favorable à la biodiversité. Ça, c'est tout à fait connu en écologie. Parce qu'il y a beaucoup plus d'ouvertures, etc., qui permettent à certaines espèces de se développer là où se développerait pas, etc. Mmh. Et par contre, il y aura souvent, évidemment, une forêt de plantation monospécifique, il y a beaucoup moins de biodiversité. Et si vous avez des travaux de type coupe rase ou gestion intensive, vous allez avoir des problèmes sur les sols, et avec des appauvrissements des sols, et peut-être des problèmes pour l'eau. Maintenant, les plantations, ça sert aussi à fixer des dunes, lutter contre l'érosion, etc. Les Chinois l'ont totalement démontré par des programmes où ils ont perdu beaucoup de biodiversité, mais ils ont effectivement réussi à arrêter une bonne partie du désert avec probablement un des plus grands programmes de plantation de ces dernières années.
Alors, avant d'aller plus loin, partons en France, ou restons en France, et écoutons justement les propos du président Emmanuel Macron.
En 2022, le président Emmanuel Macron annonce un programme de plantation d'arbres extrêmement ambitieux.
Notre cap, c'est de pouvoir replanter 1 milliard d'arbres en 10 ans. Nous devons adapter nos forêts aux nouvelles conditions climatiques à travers davantage de diversification, une gestion plus durable. Ainsi, à moyen terme, nous devons parvenir à des forêts plus résilientes, plus fortes, en préservant la beauté de nos paysages et notre biodiversité.
Alors Sylvain Angeran, je crois que finalement, en encourageant ce plan, est-ce qu'on arrive à un succès ou un échec? Je me demande si on n'est pas sur 40% des plantations qui seraient un échec, concrètement. Voilà, alors, parlez-nous un petit peu de ce plan-là.
On va préciser les chiffres. À mon sens, ce plan est un échec, très clairement. Donc déjà, quand on parle de 87% de coupe rase, c'est bien sur ce plan-là dont on parle.
Oui, bien sûr.
Et je le précise parce que effectivement, c'est important.
Oui,
c'est bien,
pas confondre.
C'était bien le sens de mon propos. Mmh. 87% de coupe rase, ben on peut comparer avec ce qu'a dit Alain. C'est-à-dire que dans la plupart des forêts françaises, en fait, on ne fait pas de coupe rase suivie de plantation, en règle générale. Et là, en fait, on a une tendance politique, des moyens considérables qui sont mis pour faire de la coupe rase suivie de plantation. Ce qu'on constate, c'est que le premier arbre planté, c'est le Douglas. Alors, quand j'entends le président de la République nous expliquer que ça, c'est pour aider les forêts à s'adapter au changement climatique, je le conteste. Je le conteste parce que le Douglas, typiquement, c'est un arbre qui n'est pas adapté au changement climatique. En dessous de 700-800 mètres d'altitude, il a toutes les chances de mourir. C'est la statistique que vous donnez. On voit qu'il y a énormément d'échecs dans les plantations, tout simplement parce que quand on détruit la forêt, on détruit le climat forestier. Cette ambiance qui fait que l'été, vous mettez un pied en forêt, vous sentez qu'il fait plus frais. On peut avoir des écarts de température de 5 à 10 degrés. Et donc, quand vous détruisez ça, vous mettez des jeunes plants en plein cagnard. Et le Douglas en particulier n'est pas adapté à ça. Donc, on a créé une véritable stratégie de maladaptation. Et pour répondre également à votre question de est-ce qu'on risque pas d'être envahi de plantations, de forêts de plantation? Je pense qu'au niveau national, c'est pas le sujet. Mais par contre, quand on descend au niveau des territoires, on voit des problèmes. Je vais vous donner qu'un territoire, le Morvan. Le Morvan, c'est de la moyenne montagne, qui était couvert à 80-90% de feuillus. Et aujourd'hui, si vous prenez l'ensemble de la surface, vous avez plus de résineux, et notamment de Douglas, que de feuillus. Et dans certaines communes, vous avez 90-95% de plantations de Douglas. Est-ce que là, on n'a pas un problème? Et juste pour finir sur la définition que donnait Alain, entre la différence entre forêt de plantation et forêt de plantée, c'est une définition éminemment politique. Pour suivre et être impliqué dans le débat en France, la France considère qu'elle n'a pas de forêt de plantation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de gestion intensive. Dans les Landes, quand on plante du pin maritime qu'on récolte à 30-40 ans, ça n'est pas de la gestion intensive. Quand on plante des Douglas qu'on coupe à 40-50 ans, ça n'est pas de la gestion intensive. Donc officiellement, la France prétend ne pas avoir de forêt de plantation. C'est un scandale, en fait.
François-Xavier Drouet voulait réagir. Dans le film aussi, on comprend qu'il y a la question des contrôles. Alors, sont-ils réels, efficaces? Qu'il y a aussi des labels. Bon, c'est vrai que c'est complexe. On a bien sûr conscience de la complexité du sujet. Et toutefois, il faut quand même pouvoir donner à comprendre aux auditeurs dans quel univers on est. Parce que eux sont face à ces incitations aussi à financer des plantations et avec des labels à la clé.
Ouais, enfin moi j'habite justement sur un de ces territoires hein, qui est à l'avant-garde de cette industrialisation de la forêt, donc qui est le plateau de Millevaches, où le modèle dominant c'est la coupe rase suivie d'une replantation en monoculture. Et justement, il y a eu une lutte que j'ai filmée dans le film autour du bois du chat, donc qui est une forêt en Haute-Corrèze, voilà. Très très belle forêt de hêtres auxquelles les habitants étaient très attachés et qui était menacée de coupe à blanc, voilà, pour replanter des Douglas parce qu'il y avait ce plan présidentiel et qu'il y avait une opportunité pour le propriétaire. Et donc ça a été une grande mobilisation victorieuse avec vraiment ce sentiment d'absurdité. On a un écosystème qui marche bien, qui est là et on vous dit comme ça du jour au lendemain, ah mais il faut l'adapter au changement climatique. toutes les recherches scientifiques vont dans le même sens, c'est qu'une forêt résiliente face au changement climatique et résistante au changement climatique, c'est une forêt diversifiée et c'est une forêt sur laquelle surtout on va pas faire de gros traumatismes. Donc ce qui nous engage plutôt à travailler la régénération naturelle et une sylviculture continue plutôt que procéder par cycles extrêmement brutaux de coupes rases et de replantations.
Alors nous parlerons bien sûr des solutions une fois avoir bien planté aussi le tableau. Alain Carcenti, ces fameux labels là qu'on peut trouver, les labels bas carbone, est-ce que ils sont efficaces? Est-ce qu'ils sont dévoyés? Est-ce qu'ils que valent finalement les certifications? Puisqu'on voit bien que dans ce monde-là, souvent soupçonné hein, derrière les paravents, ce n'est pas complètement joli. Il y a quelques arrangements aussi sous pression de certains lobbies. Forestier, hein, où on peut affaiblir aussi les méthodes de ces certifications en tout cas.
Bah, les certifications, de toute façon, il faut bien comprendre, ce sont des compromis entre des intérêts qui sont des intérêts, disons, différents et contradictoires. Donc, de toute façon, si vous regardez du point de vue d'un industriel pur et dur, il va penser que la certification, ça lui met trop de contraintes sur l'écologique, sur le social. Si vous regardez du point de vue d'une ONG qui, effectivement, milite contre les plantations en monoculture, il va considérer que c'est que la plantation, effectivement, autorise ce qu'ils considèrent comme étant le pire, c'est-à-dire une exploitation intensive, etc. Donc, de toute façon, les plantations sont des compromis. Les compromis, on va les retrouver dans la question, par exemple, du Douglas qui était évoquée jusqu'à présent.
Oui.
Qui plante du Douglas? Ce sont les propriétaires privés, en général. Bon, bah, ils sont sur leur terre. Pourquoi plantent-ils du Douglas? Parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui un arbre qui est sans doute pas adapté au changement climatique. On va revenir sur cette question d'adaptation parce que je pense effectivement que pour que les forêts s'adaptent au changement climatique, il faut qu'elles soient gérées, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une gestion active et qu'on l'accompagne. C'est-à-dire qu'il y a des arbres qui, clairement, même s'ils sont vivants aujourd'hui, peut-être dans 50 ans, ils seront plus adaptés. Donc, il faut savoir comment est-ce qu'on conduit effectivement une population par une gestion qui peut passer parfois par différents types de méthodes sylvicoles. Il peut y avoir des méthodes plus ou moins intensives ou beaucoup plus sélectives. Mais, par exemple, sur la question du Douglas, c'est que c'est une demande de l'industrie du bois. C'est-à-dire aujourd'hui en France, on a plutôt une forêt dominée par les feuillus et on a plutôt une récolte qui est plutôt dominée par les résineux, qui sont moins nombreux mais qui sont plus demandés par l'industrie, donc qui sont plus coupés. Et donc de ce point de vue, les propriétaires répondent aussi à une demande économique de la filière bois. Filière bois qui, je le dis en France, est déficitaire puisqu'on a la troisième forêt d'Europe, mais on est importateur net de sillage, de panneaux, etc. venant de Scandinavie, où là il y a des grandes forêts de monoculture, effectivement, qui sont extrêmement rentables parce qu'elles sont elles sont exploitées précisément intensivement. Donc voilà, nous sommes devant des situations dans lesquelles je dirais que il y a ni solution miracle ni de système Yaka Faucon. Nous sommes devant des systèmes de compromis. Je comprends tout à fait pour avoir aussi un pied dans le Morvan que les habitants ne supportent pas de voir la transformation du paysage qui se fait depuis 20-30 ans avec des forêts de plus en plus sombres, avec probablement des sols appauvris par la culture, par les monocultures de Douglas. Et donc ça, de ce point de vue, il y a peut-être effectivement des solutions à apporter en termes d'incitation économique, fiscale, des paiements pour services environnementaux. Enfin, c'est à voir, il y a une série de choses à faire. Mais il faut bien voir que nous sommes devant un certain nombre de contradictions et de compromis et qu'il y a des demandes différentes pour la forêt. Et il faut effectivement regarder aussi ce que les autres, de chaque côté, quel est le point de vue de chacun des acteurs.
D'accord. Sylvain Angerand, rapidement, avant d'écouter un autre extrait justement du film.
Sur les certifications, je pense notamment aux labels FSC ou PEFC qui sont censés garantir que le bois vient de forêts gérées durablement. Le consommateur ne peut pas s'y retrouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bois comme l'eucalyptus issu de plantation a le même label FSC qu'un bois qui vient d'une forêt française bien gérée sans coupe rase. Donc en fait, on a simplement encore une fois ce problème basique de transparence où on confond, on ne sait pas d'où vient le bois.
Alors, à l'origine des 1000 milliards d'arbres, on peut aussi se poser la question pourquoi ce chiffre ? Eh bien, il y a un jeune garçon et son père.
Plant for the planet. The confidence.
Plant for the planet ne plante pas de monoculture, mais de vraies forêts diversifiées en espèces. Fondée par un enfant de 9 ans, cette ONG à succès a reçu dès sa création le soutien de nombreuses célébrités.
L'organisation a été fondée par un garçon nommé Félix Finkbeiner et par son père, un homme d'affaires à succès. Félix était un jeune garçon très idéaliste. Il a encouragé ses camarades de classe à planter des arbres, tout d'abord localement, puis à grande échelle, pour lutter contre le changement climatique.
Vous avez déjà étudié en cours la photosynthèse? Alors, les arbres absorbent le CO2 et libèrent l'oxygène que nous respirons. Et ce qui compte, c'est que le carbone reste dans l'arbre.
Félix Finkbeiner est devenu cet enfant modèle, porte-parole de la question environnementale. Et il a été invité à s'exprimer à la tribune des Nations Unies. Son père et lui-même étaient dans l'avion qui les amenait à New York depuis l'Allemagne. Et ils se demandaient, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils écrivaient le discours dans l'avion et ils se sont dit, lançons un truc vraiment ambitieux. Pourquoi pas 1000 milliards d'arbres?
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
François-Xavier Drouet, quand on entend cela, on se dit, non, on se pince quand même, parce que ce n'est pas si simple et on ne peut pas, on l'imagine bien, planter les arbres n'importe où, on l'a compris.
Oui, ce qu'on vient d'entendre, donc c'est l'histoire de Félix Finkbeiner, un jeune Allemand là qui a été très connu à partir des années 2000 en Allemagne et même un peu plus largement, qui comme ça, donc son père était un riche entrepreneur et il avait cette ONG pour planter des arbres et puis il a été invité à parler à la tribune de l'ONU, puis il a lancé ce chiffre comme ça, un peu comme un slogan quoi, un peu pour frapper les consciences et comme ça reposait sur rien de scientifique, ils ont embauché un jeune scientifique anglais qui leur a pondu une étude.
Et Thomas Crozer.
Voilà, et qui expliquait qu'effectivement, il y avait la place sur Terre pour planter 1000 milliards d'arbres et que c'était la meilleure solution par rapport au changement climatique. Alors, ce qui est terrible, c'est que cette étude, elle a eu un écho médiatique énorme parce que vraiment tous les médias ont dit oh, mais c'est formidable. En
fait, à la base, les intentions étaient bonnes, c'était vertueux, ils ne parlaient pas de monoculture. Ils avaient d'autres intentions, mais
l'étude a été publiée dans la revue Science, quand même aussi très prestigieuse, qui a donné beaucoup d'écho, mais elle a surtout déclenché une controverse scientifique énorme, c'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de réponses scientifiques qui étaient vraiment extrêmement en colère qu'on puisse proférer ce genre d'énormité, quoi, parce que 1000 milliards d'arbres, voilà, ça représente à peu près la surface des États-Unis déjà, donc où les planter. Meilleure solution face au changement climatique, la meilleure solution face au changement climatique, c'est d'abord d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre et la déforestation, avant de penser à planter des arbres. Et puis, où est-ce qu'on va les mettre, ces arbres? Parce qu'il y a quand même des humains, puis il y a d'autres écosystèmes.
Oui, ou des zones blanches, vous en parlez dans le film, les déserts ou d'autres zones, enfin, qui sont très claires finalement. Il y a aussi cet effet albédo qui provoque un refroidissement, mais la couverture forestière, elle assombrit les zones plantées. Donc là, il y a d'autres effets aussi contre-productifs. Et on se rend compte que finalement, les chiffres avancés, 1000 milliards, ce serait 5 fois trop optimiste.
Oui, alors il y avait énormément d'erreurs de calcul dans cette étude. Notamment, ils n'avaient pas pris en compte, par exemple, que certains sols contiennent déjà du carbone, notamment les prairies, notamment les savanes, parce qu'il y a énormément de programmes de plantation. Peut-être on va y revenir justement dans les savanes, qui sont des écosystèmes.
On peut en parler maintenant. La savane brésilienne, qui est une forêt inversée, en fait.
Oui, c'est ça. Alors, donc c'est le Cerrado qui est cette région qui contient 5% de la biodiversité mondiale. C'est beaucoup moins connu que l'Amazonie, mais c'est vraiment un écosystème à part entière. Et il y a cette idée un peu qu'une savane, finalement, c'est une forêt dégradée, quoi. Alors que non, c'est un vrai écosystème.
Et 5% de la biodiversité mondiale est abritée par le Cerrado, je crois.
C'est ça. Et donc, on dit que c'est une forêt inversée parce que dans une forêt, alors souvent le carbone est plutôt en surface que dans le sol, sauf dans les forêts, en tout cas dans les forêts tropicales, c'est plutôt comme ça. Mais là, en fait,
c'est le système racinaire.
Voilà, qui est extrêmement.
Qui est capteur de CO2.
Développé, on le montre dans le film. Donc quand vous détruisez ça, finalement, vous déstockez tout ce carbone. Et puis, surtout, ce sont des écosystèmes qui sont très adaptés au feu, qui se régénèrent très facilement. Alors que si vous replantez une forêt par derrière, il y a toutes les chances qu'elle brûle et que le carbone y reparte dans l'atmosphère.
Et aujourd'hui, la moitié du Cerrado a déjà disparu.
Oui, alors justement, le retour de Lula au pouvoir au Brésil a vraiment freiné la déforestation en Amazonie. Par contre, la destruction du Cerrado, elle s'accélère parce que c'est vraiment une frontière.
C'est pas considéré comme une forêt déjà.
C'est pas
malheureusement.
En tout cas, c'est sans doute pas considéré comme un écosystème riche à sa juste valeur. Et c'est une terre d'expansion du bétail et aussi de la monoculture d'eucalyptus.
Et puis bien sûr, il y a d'autres subtilités. On peut pas parler de tout, mais quand les arbres captent du CO2, l'océan lui va en relâcher pour compenser, etc. Il y a des demi-succès. Enfin bon, c'est toute cette complexité qui devrait être prise en compte pour trouver des solutions et de bonnes solutions. Nous allons en parler dans un instant de ces solutions pour essayer de stopper cette machine en marche.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco oco, um casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói.
Alors, Gilberto Gil, Refloresta, effectivement, on parlait de cette chanson pour la forêt amazonienne, chantée par ce chanteur brésilien, en soutien à une campagne de reboisement. Et c'est la suite, bien sûr, de Deux causes à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Planter des milliards d'arbres pour sauver la planète, bonne action ou arnaque? C'est le sujet du jour et nous en discutons avec nos trois invités. François-Xavier Drouet, cinéaste et auteur et réalisateur du documentaire Planter à tout prix des arbres pour sauver la planète, un documentaire diffusé sur Arte. Sylvain Angeran, ingénieur forestier et coordinateur des campagnes pour l'association Canopée. Et puis en duplex, depuis les studios de Ici Héros, Alain Carsanti, économiste, chercheur au CIRAD. Je rappelle, le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
Je m'appelle Mandy Patacho. Je suis le chef du village Rio Ducaí. Les patachos recherchent l'harmonie avec l'environnement, l'harmonie avec l'eau, avec la flore, avec la faune, l'équilibre d'une vie harmonieuse.
Les patachos occupaient la région bien avant l'arrivée des colons portugais, il y a 5 siècles. Ils sont en conflit avec les propriétaires d'eucalyptus, qu'ils accusent d'empiéter sur leur territoire.
Tout au long de la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, nous avons subi de nombreux types d'agressions et de massacres. Et l'une des pires agressions dont nous souffrons aujourd'hui est l'eucalyptus, planté sur des terres indigènes. Une monoculture d'eucalyptus, pour nous, c'est un désert vert. Il n'y a que du sable. La terre devient sable, elle n'a ni humidité, ni humus, ni vers, ni graines. Ici, rien ne germe, rien ne pousse. Vous ne trouverez aucun arbre autochtone de la Mata Atlantica qui donne de la nourriture, de l'eau, de la vie. Ici, tout n'est que eucalyptus qui donne la mort.
François-Xavier Drouet, Mandy Patacho et ses proches que vous avez rencontrés, s'appuyer sur les savoirs ancestraux des populations autochtones, cela fait partie aussi de solutions, mais voilà, on peut déjà remonter sur cette rencontre peut-être.
Oui, bah cette rencontre avec le peuple Patacho, hein, donc un peuple autochtone de la région de Bahia au Brésil, qui se trouve que c'est un des premiers à avoir fait cette mauvaise rencontre avec les colons portugais déjà il y a plus de 5 siècles, et qui aujourd'hui sont toujours en conflit avec les grands propriétaires, et notamment les planteurs d'eucalyptus, parce que c'est historiquement une zone de plantation d'eucalyptus, cette région de l'État de Bahia.
Il ne reste que 7% du territoire originel.
Oui, alors parce qu'on on connaît tous l'Amazonie, mais il y avait aussi la Mata Atlantica, donc qui était la forêt atlantique aujourd'hui, qui n'existe plus qu'à l'état de Bribe, hein, le long de la côte atlantique. Et voilà, et donc les Patachos, ils habitent ces derniers confettis de la Mata Atlantica, et ils luttent contre l'expansion de ces plantations d'eucalyptus.
Alain Carcenti, planter des arbres se révèle aussi dans certaines régions du monde un moyen pour s'approprier des terres ancestrales, hein, pour lesquelles les populations locales n'ont pas d'acte de propriété. Souvent, peut-être que vous avez, vous, en arpentant certains terrains, vu aussi réaliser beaucoup de choses.
Oui, de toute façon, notamment par exemple en Afrique, c'est à la fois du coutumier et c'est du moderne. C'est-à-dire que quand vous plantez des arbres, ou d'ailleurs ou du cacao, ou du café, vous mettez en valeur la terre, c'est un moyen de l'approprier quand vous avez des systèmes coutumiers qui se sont un petit peu érodés, c'est-à-dire où il y a une incertitude maintenant sur les droits. Oui. Donc disons que pour planter des arbres, on a besoin d'espace, moins d'espace que pour la conservation, mais on a quand même besoin d'espace. Et effectivement, on a un certain nombre, on va avoir un certain nombre de problèmes avec quand vous plantez des arbres. Dans des logiques où vous plantez les arbres sur des terres, par exemple sur des terres d'État, au sens où je m'explique, si vous payez des paysans pour planter des arbres dans leurs champs et que vous reboisez, par exemple, c'est ce que j'avais fait au Burkina Faso, en tout cas c'était un travail qu'on avait fait avec des paiements pour services environnementaux pour que les paysans remettent des arbres qui sont utiles pour leur économie locale dans leurs champs, alors qu'il n'y a plus d'arbres dans leurs champs, bah, à ce moment-là vous avez des taux de survie beaucoup plus intéressants. Et vous changez complètement la logique, vous n'êtes plus en logique d'opposition avec les paysans, mais vous êtes au contraire dans une logique de coopération où vous améliorez au fond le capital et la richesse de leur patrimoine foncier à travers ce système. Et ce sont des systèmes beaucoup plus, je dirais, aujourd'hui intelligents qu'il faut explorer, c'est-à-dire si on veut replanter des arbres, il faut les replanter avec les paysans sur leurs terres ou des terres communautaires. Il faut probablement avoir des incitations financières, foncières, etc. pour le faire. Et là, on aura à la fois, on n'a plus le conflit qu'on peut avoir dans les grandes plantations d'eucalyptus, et on rentre dans des logiques, dans des logiques de coopération et surtout de résilience, puisque généralement, quand les arbres sont plantés sur leur terre, les paysans s'en occupent.
Sylvain Angerand, les solutions ?
En fait, ce qu'évoque Alain, c'est important à comprendre, c'est que la plupart des pays du Sud sont des pays qui sont issus de la colonisation et dont l'État moderne est relativement récent, surtout si on compare par rapport à la France. Donc la question foncière, elle n'est pas réglée, elle est vraiment tiraillante. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des droits coutumiers qui sont souvent des droits d'usage, sur lesquels est venu se juxtaposer le droit moderne en disant ceci est la propriété de l'État. Ces terres sont propriété de l'État, et il y a conflit. Et en fait, ce qui est en train de se passer avec toutes ces histoires de plantations d'arbres, c'est qu'on est en train d'exacerber ces conflits. Parce que derrière, qui va profiter de la rente ? La rente carbone, notamment, quand on plante des arbres. Eh bien, on voit que l'État a aucun intérêt à régler ses problèmes fonciers, à dire voilà, ce territoire appartient à ce peuple autochtone ou à cette communauté, puisque derrière, il perd les droits en fait sur le carbone. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est la résurgence de deals entre États, par exemple Liberia avec les Émirats Arabes Unis, pour accaparer des grandes surfaces de terre et planter des arbres. Donc là, en fait, on voit que cette logique de compensation carbone par les arbres, c'est une forme potentiellement puissante et de plus en plus réelle d'accaparement des terres. Et moi, j'ai visité vraiment plusieurs terrains, en Ouganda par exemple, pour n'en citer qu'un, où des paysans qui n'avaient pas de terre se retrouvaient expulsés parce qu'on venait planter des eucalyptus. Ce qui finançait, c'était une entreprise énergétique de centrale à charbon aux Pays-Bas. Et donc, on est en train de mettre en équivalence le droit d'un paysan ougandais à se nourrir, donc quand même un besoin fondamental, avec des centrales à charbon qu'on refuse de fermer et qu'on va essayer de verdir, et pour ça on va aller planter des arbres. Et donc, et je pourrais tirer le trait encore plus avec prendre l'avion. Aujourd'hui, vous avez combien de compagnies aériennes comme Air France, EasyJet qui vous disent prenez l'avion, on va planter des arbres. Donc on est en train de mettre sur le même plan un besoin fondamental qui est celui de se nourrir avec ce qui relève du plus que secondaire, du loisir. Et ça, en fait, toutes ces logiques de plantation d'arbres, en fait, elles cautionnent malheureusement tout ça, quoi.
François-Xavier Drouet, vous en parlez dans le film.
De la compensation carbone, alors oui. On a effectivement tourné une séquence au Congo-Brazzaville où Total effectivement a développé un projet depuis plusieurs années sur les plateaux batéqués et qui a effectivement provoqué des conflits sociaux. Comme la terre appartient à l'État, ils ont exproprié moyennant des compensations misérables pour et encore pour seulement pour une partie des propriétaires, donc toutes les familles qui avaient besoin de ces terres pour leur subsistance, des peuples autochtones aussi qui avaient besoin aussi de la cueillette ont été aussi expulsés du périmètre. C'est une affaire qui est toujours pas réglée et voilà pour tout ça pour que Total puisse améliorer son bilan carbone. Donc on allait voir comme ça les paysans qui avaient été lésés et qui essayaient de négocier avec Total une meilleure compensation par rapport aux préjudices terribles qu'ils ont subis.
Oui, et on voit que les entreprises les plus utilisatrices des crédits carbone, ce sont souvent les entreprises pétrolières, gazières. Alain Carcenti, est-ce qu'on peut en finir avec la compensation carbone des entreprises? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à proposer, des solutions? Et on voit aussi que des sociétés, fort encore de nouveaux puits, continuent de générer de nouvelles exploitations d'énergie fossile et donc, compensent avec ces fameux, cette fameuse compensation carbone.
Oui, de toute façon, là, il y a eu de plus en plus, et d'ailleurs ces derniers temps, il y a encore beaucoup d'articles scientifiques qui sont sortis pour montrer que cette équivalence entre je fais plus 1 émission, moins 1 absorption, stockage dans des forêts, ne fonctionne absolument pas. C'est bien expliqué dans le film sur différents aspects, et tout simplement parce que le CO2 que vous envoyez dans l'atmosphère, il va rester pendant des siècles, et une partie va rester plus de 1000 ans dans l'atmosphère, tandis que les arbres que vous allez planter aujourd'hui, le carbone que vous allez stocker, il va ressortir un jour ou l'autre. Avec les méga-feux qui, de ce point de vue, sont de plus en plus importants sur la planète et de plus en plus fréquents, très probablement le temps de résidence, du CO2 dans les arbres est de plus en plus court, parce qu'on a une très forte mortalité mondiale des arbres. Et à partir de 32 degrés dans la journée, les arbres d'abord rejettent plus de CO2 qu'ils ne stockent de carbone. Donc ça, d'un point de vue scientifique, la question est pratiquement définitivement réglée. C'est-à-dire effectivement, on ne peut pas compenser des émissions en plantant des arbres. Et c'est tout le problème de ces crédits carbone qui sont très ambigus, c'est-à-dire qui prétendent être de la compensation, mais qui en fait sont présentés aussi comme de la contribution. Mais les gens restent dans l'ambiguïté parce que c'est mieux de dire qu'on fait de la compensation plutôt que de dire simplement qu'on contribue. Maintenant, même un stockage temporaire, effectivement, peut être utile. C'est-à-dire que c'est, même si vous stockez du CO2 pendant 20-30 ans, ça a quand même son utilité du point de vue climatique, parce que probablement, ça permet de retirer pendant un moment du CO2 de l'atmosphère pour éviter d'atteindre des seuils de concentration des gaz à effet de serre qui pourraient nous rapprocher de points de bascule qu'on ne connaît pas très bien, mais qui sont probablement très très dangereux pour le climat. Donc c'est pas du tout inutile de le faire. Si je peux vous dire deux mots sur la question de la compensation carbone, oui, et des crédits carbone, il faut bien voir que il y a deux choses différentes. Les plantations monospécifiques pour faire de la pâte à papier, c'est pas des projets carbone, ça. Ce sont des projets, parce que de toute façon, vous allez couper les arbres, les eucalyptus, on va les couper à 7-8 ans dans les zones tropicales pour faire de la pâte à papier ou pour faire du panneau. Donc à ce moment-là, vous allez relarguer le CO2. Donc c'est pas du tout une activité qui est propice si vous voulez avoir des crédits carbone. Si vous voulez faire des crédits carbone, il faut planter des arbres et il faut qu'ils durent le plus longtemps possible. Parce que ça, c'est une question, vous essayez de vous rapprocher du long terme. Donc il ne faut pas confondre les deux choses. Si les gens font des plantations d'eucalyptus, d'acacia mangéum ou autres, en général, c'est pour de l'industrie et ils ne demandent pas des crédits carbone. Donc distinguons bien les deux choses.
D'accord.
Et là, de ce point de vue, juste un point, c'est que on a parlé tout à l'heure des certifications. Les certifications ne sont peut-être pas extrêmement efficaces du point de vue de l'intégrité environnementale, pour des tas de raisons qu'on n'a pas le temps de discuter. Par contre, souvent, mis à part la question des aires protégées, qui est une question très particulière, mais sur les zones, effectivement, je dirais banales, il y a des sauvegardes qui font qu'on ne peut pas déplacer les populations, et donc sinon vous n'êtes pas certifié. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez vendre des crédits carbone aujourd'hui, il faut quand même certifier vos crédits carbone, sinon vous aurez du mal à les vendre. Et les certifications privées, globalement, ont des verrous, ont des sauvegardes. Alors, c'est pas toujours... Ok, il y a des exceptions. On trouvera toujours quelques exceptions. Mais globalement, effectivement, ça fonctionne.
Et alors, il n'y a aucune aide aujourd'hui qui existe pour les particuliers pour garder les forêts naturelles. Je crois que vous proposez des crédits d'impôt à l'hectare qui pourraient encourager cette pratique.
Non, donc voilà, il y a plusieurs possibilités pour effectivement essayer d'avoir des forêts que l'on conserve, oui. Dont on améliore la gestion avec des pratiques moins destructrices, etc. Il y a des paiements pour services environnementaux qui consistent effectivement, par exemple, à payer les usagers pour qu'ils modifient leurs pratiques, pour qu'ils conservent leurs forêts, qu'ils évitent les coupes rases, etc., etc. Bon, ces paiements pour services environnementaux, il faut encore pouvoir les financer. Bon, au Costa Rica, ils les financent par des redevances. Ce sont des taxes qui sont affectées. C'est des taxes sur le carburant, les redevances qui sont affectées, qui financent les propriétaires, les communautés pour conserver des forêts. Bon, c'est effectivement une chose. On travaille sur d'autres choses, sur ce qu'on peut appeler des certificats nature ou des certificats biodiversité. Je préfère le terme certificat nature parce que pour moi, ça doit englober au-delà de la biodiversité, également du carbone, mais également de la santé des sols, de l'eau, etc. Qui seraient effectivement des instruments de contribution qui pourraient être vendus par des propriétaires, des usagers, des communautés. Qui réalisent des actions, soit de conservation, soit de restauration, qui sont favorables à la biodiversité. Et ça pourrait être effectivement proposé aujourd'hui à la vente, à la fois aux citoyens, à des entreprises, à des banques, etc. etc. Ça sera un instrument de financement, effectivement, parmi d'autres.
Alors, côté citoyen, il y a aussi des moyens d'agir, de s'impliquer. On le voit sur le terrain. Je vous propose de repartir dans le film de François-Xavier Drouet pour prendre la mesure aussi de certaines actions et tentatives de s'opposer à des coupes rases.
En Haute-Corrèze, des habitants tentent de sauver une forêt feuillue menacée de coupes rases, le bois du chat. Son propriétaire souhaite y planter des douglas, subventionnés par le plan présidentiel.
Et pour votre sécurité, vous n'avancez pas.
Allez, les bûcherons, ne prenez pas parti, reculez. C'est trop tard, on est là, on est avec vous, mais on ne peut pas laisser faire ça.
Vous êtes sur un terrain privé. Vous opposez au droit du travail. Vous êtes donc en infraction.
Non mais vous protégez un truc qui est illégal, vous le savez.
Cette forêt ne sera pas coupée, c'est simple.
Bon, aujourd'hui, on a envie d'agir en forêt. On en a marre de voir ce type de sylviculture. On est d'accord qu'il faut produire du bois, mais il y a d'autres façons de le produire. Du coup, on est plusieurs d'entre nous à être mobilisés dans le village, dans les coins autour. On dit c'est encore un endroit qui disparaît. On va avoir encore une monoculture du résineux. Le paysage s'uniformise et on perd toute cette richesse. Quand je vais dans une forêt de douglas ou de résineux, j'ai pas le même ressenti. Je vois bien que ça chante moins autour de moi. Je vois bien qu'il y a moins de variété d'espèces. On n'a pas forcément envie d'y aller.
François-Xavier Drouet, donc extrait de votre film « Planter à tout prix, des arbres pour sauver la planète », diffusé sur Arte. On voit ces implications de citoyens dans votre film. Donc là, typiquement, le bois du chat, c'est ça, que vous connaissez bien, Haute-Corrèze. On peut parler aussi de ce qui se passe en Espagne. Des actions, des solutions, des solidarités, dans des cas différents. Là, c'était couper une forêt, mais il y a d'autres situations où les méga-feux ont aussi montré combien on doit entretenir aussi, gérer ces forêts.
Bah, en tout cas, je crois que là, depuis très longtemps, on sait qu'il y a des méthodes pour gérer la forêt de façon douce et de récolter du bois sans détruire les écosystèmes. Il y a la gestion ProSilva, il y en a d'autres. Enfin, en tout cas, sur le plateau de Mille Vaches, il y a aussi des forestiers, des forestières que j'ai filmé qui travaillent avec ces méthodes sans faire de coupe rase ou alors seulement dans les cas où c'est vraiment indispensable. Et puis, on a filmé mais aussi en Galice, où, qui est une de ces régions, comme le Portugal, qui vit sous cette pression des monocultures d'eucalyptus, des citoyens, voilà, qui se réapproprient leur territoire, en replantant cette fois des essences autochtones. Alors là, l'enjeu pour eux, c'est la résistance aux incendies, hein, parce que l'eucalyptus, c'est
ça s'enflamme tout de suite.
Terrible de propagation, oui, des incendies. Il y en a encore eu des incendies mortels dans cette région cet été. Et donc voilà, de façon communautaire, ils reprennent possession du territoire. Parce qu'il y a vraiment une sensation avec ces essences exotiques, et puis ces puissances comme ça, ces enjeux qui viennent planter des arbres, presque une idée de colonisation finalement. Et d'ailleurs, la plantation d'arbres historiquement est très très liée à la colonisation. Les empires britanniques, empires français ont planté des eucalyptus partout dans leur colonie, parce que voilà, c'était l'idée un peu de s'approprier le territoire, quoi. Et donc voilà, une réponse aussi de travailler avec ces essences locales, avec ces essences autochtones, et on sait qu'elles sont beaucoup plus adaptées justement au changement climatique.
Donc ces brigades d'éradication d'eucalyptus que l'on suit avec vous aussi dans une partie de votre film. Sylvain Angerand, peut-être l'envie de donner des conseils. Vous imaginez bien que parmi les auditeurs, il y a aussi des consommateurs. Ils sont consommateurs et qu'ils peuvent se retrouver au moment de leurs achats à appuyer sur la touche verte ou rouge pour pouvoir participer à des plantations. Qu'est-ce qui se passe ? C'est difficile pour eux aussi.
Alors, je suis jamais à l'aise pour m'adresser aux citoyens consommateurs. Je préfère m'adresser aux citoyens politiques, parce que le citoyen consommateur, bien souvent, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, quoi. Je vous donnais l'exemple des labels. Même quand on veut acheter un bois avec un label, on ne sait pas si le bois vient d'une plantation ou d'une forêt naturelle. Donc, que faire? Par contre, en tant que citoyen politique, vous pouvez faire des choses au niveau local. Bon, vous pouvez effectivement, comme sur le plateau de Mille Vaches, vous mobilisez pour empêcher des coupes rases de forêts naturelles. Vous pouvez vous mobiliser aussi pour faire changer les lois. À Canopée, vous me demandiez ce qu'on fait. On fait un gros boulot pour interpeller les députés, pour aller enquêter sur le terrain, et puis faire en sorte que les aides publiques, puisqu'elle a abordé le sujet, plutôt que de raser des forêts et de planter des douglas, nous, on privilégie l'accompagnement de propriétaires privés ou publics pour avoir une forêt qui est gérée plus proche de la nature. C'est un peu le terme que t'expliquais. C'est-à-dire qu'on va essayer s'appuyer sur les mécanismes naturels de résilience et de résistance, donc la diversification. Et puis surtout, ça a été aussi abordé pendant l'émission, pour qu'une forêt, si je parle de la France, soit debout aujourd'hui, il faut qu'il y ait une industrie qui soit compatible. Et donc c'est pour ça que ça peut paraître curieux, mais nous on milite pour réorienter les aides publiques aussi vers le soutien aux petites et moyennes scieries de feuillus, de façon à pouvoir transformer tous ces bois qui sont d'une grande diversité. Et en fait, si vous créez de la valeur économique, et on sait le faire, encore une fois, on pourra refaire une émission là-dessus, ça crée une incitation positive à garder la forêt debout. Ouais. Voilà. Et si vraiment ça vous démange de planter des arbres, en fait, le sujet, c'est pas la forêt. Plantons des arbres dans les haies pour restaurer des haies, dans votre jardin. Mais vraiment, le message que je veux faire passer, c'est ne pas prendre la question forestière par le bout de la plantation d'arbres, parce qu'on se trompe toujours. Parfois, on a besoin de planter des arbres, mais c'est vraiment une exception, quoi. Et ça aide pas à la compréhension globale du sujet comme on a pu l'avoir là.
Ce que vous nous dites, c'est questionnons nos achats, en fait.
Et il y a un problème majeur de surconsommation aussi. Oui.
François-Xavier Drouet,
J'ai juste envie de dire quelque chose, en tout cas, sur les peuples autochtones. Il y a des études qui ont montré que partout où les droits des peuples autochtones étaient sécurisés, ou les droits fonciers étaient sécurisés, la déforestation reculait. Donc avant de penser à planter des arbres dans cette région, il faut plutôt lutter justement pour les droits des peuples autochtones.
Merci à tous les trois. Merci Alain Carcenti. Merci Sylvain Angerand. Merci François-Xavier Drouet. François-Xavier Drouet, donc, à découvrir votre documentaire Planter à tout prix des arbres pour sauver la planète, pour l'interrogation. Donc, c'est à voir sur Arte. Et puis, une actualité aussi, je crois, un film, L'Évangile de la Révolution.
Oui, un film autour de la théologie de la libération en Amérique latine, la participation des chrétiens au mouvement révolutionnaire dans cette région, qui est sorti en salle le 3 septembre et qui est encore sur les écrans.
Encore sur les écrans.
Les infos sur tous les sites.
Vous pouvez encore en profiter. Et puis, bien sûr, pour aller plus loin, direction aussi notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où les références, la bibliographie et d'autres podcasts vous sont proposés. Merci à tous.